Wake up, you're listening to rockkick.com.
Pierre Ismaël Trépanier.
Laisse-moi te dire un truc, gros là. Ta mère est passée me voir tout à l'heure et ben je l'ai culbuté comme une vraie salope.
Wake up!
Devil, yeah.
Il est 10h11, vous êtes sur le www.rockkick.com. Wake up, le show, Ismaël Trépanier, Christian Dallaire et Miss Diamond. Au bout du fil, nous avons Monsieur Reichmann. Bon, j'espère qu'il ne me tapera pas sur les doigts, là. 12 minutes de retard, là, quand même, là. On va essayer d'être plus discipliné la prochaine fois, M. Reichmann.
avec plaisir. Bonjour, M. Trépanier. Vous allez bien?
Oui, ben, on travaille pour aller bien. On travaille pour...
C'est une vertu essentielle.
Oui,
c'est une vertu qui se perd, vous savez.
Tout à fait.
Par exemple, en France, le fait de travailler est très mal considéré. C'est considéré comme une sorte d'atteinte aux droits sociaux, n'est-ce pas?
Ah, c'est étrange.
Ah, oui, oui.
Est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple des SDF?
Oui. Alors, les SDF ne sont évidemment pas des gens qui refusent forcément de travailler.
Oui, tout à fait.
En tout cas, ils sont privés de travail. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, sont des gens qui viennent de pays étrangers, comme par exemple les pays de l'Est, de Russie ou d'autres, surtout de Russie d'ailleurs, et qui viennent à la recherche, je dirais, d'un peu plus de prospérité, et qui se retrouvent sans travail, sans moyen de travail et sans moyen d'existence. Mais ils sont attirés en France, comme d'autres d'ailleurs, par le fait qu'il y a de très nombreux avantages sociaux, qui d'ailleurs ne leur suffisent pas pour bénéficier d'un logement. Il faut quand même savoir aussi que la France n'a jamais construit autant de logements et qu'il n'en a jamais manqué autant, ce qui signe évidemment l'importance de l'immigration en France. Et ce qui est un problème extrêmement préoccupant, parce que en outre, il y a un phénomène que l'on connaît assez mal, mais qui est une réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un travail et qui vivent soit dans leur automobile, soit dans des campements de fortune, ce qui veut dire que la situation en France est extrêmement difficile. Et quand vous considérez que la France est quand même une des premières puissances du monde et qu'elle est d'autre part dans une situation économique qui n'est quand même pas comparable à celle d'un pays sous-développé,
exactement,
on se demande s'il n'y a pas, et j'en suis même sûr, quelque chose de pourri au royaume de Danemark.
Ah.
Et ce qu'il y a de pourri, eh bien, c'est tout simplement le fait que 30 ans de technocratie et de communisme ont condamné la France à une situation totalement misérable, et qui ne va faire, hélas, que s'accentuer, puisqu'aucun des candidats à l'élection présidentielle ne propose un programme vraiment crédible.
Moi, ce que j'essaie de comprendre, est-ce que il y a... Parce que nous, ici, on a un problème soi-disant. Là, je suis propriétaire aussi, M. Reichmann,
oui,
d'un immeuble. Et on se fait casser les oreilles par un organisme nommé le FRAPU qui demande et qui demande et qui demande constamment la construction de logements nommés HLM, là. Enfin,
oui,
où est-ce à prix modique pour ce qui est du loyer. Et c'est drôle, on est toujours dans les... Je comprends pas pourquoi que les médias embarquent là-dedans, mais donnent l'impression qu'on manque toujours de loyer, de logements.
La raison est très simple, c'est que les logements sociaux, la construction de logements sociaux attire une clientèle qui demande des logements sociaux. C'est-à-dire que si vous n'en avez pas, les gens sachant qu'ils ne pourront pas se loger facilement, ne choisissent pas de se diriger vers le lieu où considéré, mais si vous en construisez, il y a un véritable appel. Si bien que plus vous en construisez, et plus il y a de la demande.
Ah,
alors, il n'y a pas de limite à cela, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut, si on veut résoudre ce problème, il faut reprendre tout à la base, il faut en fait redonner aux gens l'essentiel de ce qu'ils gagnent, donc limiter les prélèvements sociaux et fiscaux, libérer la construction, c'est-à-dire la libérer de toutes les entraves administratives et autres qui l'empêchent de se développer normalement. Il faut arrêter en outre de pénaliser les propriétaires par des impôts comme par exemple en France l'impôt sur la fortune, qui frappe essentiellement l'immobilier, puisque les biens non mobiliers peuvent circuler, donc échapper à cet impôt. Enfin bref, il faut reprendre à la base l'ensemble du dispositif. Or, pour ce faire, il faudrait un véritable programme de liberté, mais ça n'est pas celui, celui de ni de Monsieur Sarkozy, ni de Madame Royal, ni même de Monsieur Le Pen, encore qu'il soit un tout petit peu plus libéral à l'intérieur au moins que celui des autres, ni de Monsieur Bayrou. Donc nous sommes dans une situation qui vraiment, et j'en suis désolé, va nous conduire à une aggravation de la crise.
Tiens donc, une aggravation de la crise, mais je suis persuadé qu'il n'y a aucun parti politique qui vont prendre conscience de cela.
La conscience, je pense qu'ils l'ont peut-être, mais peut-être, mais ils considèrent que ce serait suicidaire pour eux de dire qu'il faut prendre des mesures comme celles que je préconise, et donc aucun d'entre eux n'a le courage d'assumer les véritables choix qu'il faut faire pour la France. Donc leur motivation principale consiste, me semble-t-il, à essayer d'obtenir le pouvoir. Vous savez, le pouvoir, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement agréable. Enfin, pour ceux qui considèrent que c'est l'objectif. Normalement, un homme politique ne doit pas avoir envie du pouvoir pour en jouir, mais il doit avoir envie du pouvoir pour faire quelque chose de positif pour son pays.
Monsieur Reichmann, on nous dit via le live, @rockick.com, par exemple, c'est quelqu'un de la Belgique qui nous écrit, oui. Le droit, par exemple, en Belgique, toutes les entreprises bénéficient d'aide de l'État, et de l'aide aussi de l'État sous une autre forme ou de l'autre, quelque chose comme ça. Alors, dans le fond, le droit d'entreprendre et le désir est miné par une réglementation et une taxation excessive. À quelque part, ça ressemble
un
peu.
Oui, c'est vrai partout. Mais la France bat des records, la Belgique n'est pas mal placée non plus à cet égard. Mais il faut dire que partout, vous avez des États qui se sont emparé de la vie économique du pays, et c'est le cas de la France dans une très grande proportion, puisqu'elle l'État réglemente toute la vie économique dans des proportions absolument effarantes, on a bien sûr un recul de la liberté d'entreprendre. Et vous savez, il y a un phénomène qui est assez curieux, c'est le nombre de créations d'entreprises. Alors on nous rebat les oreilles avec l'idée qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises en France et qu'en plus beaucoup de capitaux étrangers s'investissent. Mais c'est en réalité un phénomène très inquiétant, parce que les entreprises qui se créent sont des petites entreprises unipersonnelles qui sont montées par des gens qui ont été mis au chômage et qui utilisent leurs indemnités de licenciement pour tenter de créer une petite entreprise, et le plus souvent, cette entreprise en 2 ou 3 ans a disparu, fortement aidée d'ailleurs par les prélèvements fiscaux et sociaux immédiats qui plombent son activité. Quant aux investissements étrangers, ils se portent pour l'essentiel sur le rachat d'entreprises françaises qui ne trouvent pas preneur, tout simplement parce que leurs dirigeants, en raison des droits de succession, sont obligés de s'en défaire. En tout cas, ils ne peuvent pas assumer ou faire assumer par un héritier ou par quiconque, d'ailleurs, une continuation de l'entreprise. Donc ce sont des fonds d'investissement étrangers qui sont devenus vraiment les rois du bal en France, qui achètent des entreprises et qui jouent au Monopoly. Parce que un fonds d'investissement reste rarement plus de 3 ou 4 ans dans une entreprise, donc il fait en sorte de la rendre le plus rentable possible. Si ça l'arrange, il transfère son siège social dans son propre pays ou dans un pays où fiscalement il trouvera.
C'est ça exactement.
Voilà, et il va ensuite dépecer l'entreprise, ou alors s'il ne l'a pas dépecé, au bout de 3 ou 4 ans, après avoir vraiment mis tout cela en ordre de marche avec beaucoup de sévérité, eh bien, il la revend avec un profit énorme, et vous avez des bascules de plusieurs milliards, parfois, sur 3 ou 4 ans. Mais c'est, alors tout ça, ça tient à la faiblesse du capitalisme national, et cette faiblesse tient au fait qu'on n'a pas laissé les PME, et même les particuliers, de façon générale, garder suffisamment d'argent pour capitaliser, investir et s'organiser. Donc, voilà, le communisme français a abouti simplement, comme partout dans le monde, à la ruine des Français.
Mais c'est incroyable, les ex-entrepreneurs, ils deviennent quoi, là? Ils sont jetés carrément à la rue, je sais pas.
Ben, ils sont jetés à la rue, oui. Puisque, quand vous êtes salarié et que vous êtes licencié, bon, si vous êtes licencié avec des indemnités de licenciement, vous pouvez, c'est ce que font beaucoup d'entre eux, tenter de monter une entreprise, et cette entreprise le plus souvent échoue parce que c'est difficile de devenir un entrepreneur, il y a un taux de mortalité des entreprises qui est pratiquement inévitable. Or, une fois qu'ils sont licenciés de ces entreprises, bien, ils n'ont plus d'indemnité de licenciement, bien sûr, mais ils n'ont plus non plus d'indemnité de chômage, d'allocation de chômage, parce que le chômage n'est en quelque sorte disponible que pour les salariés. Or, quand vous êtes non salarié, vous n'avez pas d'allocation de chômage.
Ah.
Si bien que ces gens peuvent être jetés à la misère. Et c'est comme ça qu'on voit les gens qui deviennent SDF.
Un non salarié, en quelque sorte, peut être un entrepreneur, c'est ça?
Oui. Eh ben.
Parce que c'est la même chose ici. Moi, j'ai une entreprise, M. Reichmann, et jamais dans 100 ans, disons que je fais faillite ou quelque chose du genre, je n'aurai pas de chômage du tout, là.
Voilà, ben, c'est exactement la même chose en France. Et ce qu'il y a de très inquiétant pour tout le monde, d'ailleurs en France, c'est que ce système où l'on ne trouve pas facilement d'emploi, où les entreprises disparaissent très vite et où l'ensemble des gens est menacé, se traduit par un chiffre extrêmement impressionnant, je crois d'ailleurs vous l'avoir indiqué, 48% des Français ont peur de devenir SDF sans domicile fixe. Donc vous savez, c'est une société très fragile que celle qui est inquiète à ce point. Moi je discutais il y a peu de temps avec l'assistante d'un grand PDG, vraiment au niveau mondial, mais qui est français, qui vit en France. Et elle me disait, moi j'ai peur de devenir clocharde, vous vous rendez compte?
Oui.
Bon, elle n'était que l'assistante, elle n'était pas le PDG, enfin c'est une femme qui avait une bonne situation, et ça c'est quand même, ça m'a fortement impressionné, parce que je me disais, si vraiment des gens qui ont ce niveau de responsabilité, c'est quand même très important d'être l'assistante d'un grand PDG.
Je vous dirais que les gens sont unanimes là, avec ce que vous dites
oui,
en ce moment,
oui, monsieur. Il y a vraiment, et ça frappe tous les milieux. Ce n'est pas que les milieux les plus modestes. C'est vraiment, vous avez ouais. actuellement une grande inquiétude, et permettez-moi de vous dire que cette inquiétude est parfaitement fondée, car si nous continuons comme ça, c'est bien ce qui va arriver à la majorité des Français.
Mais pourquoi, monsieur Eichmann, c'est ça que je trouve bizarre, pourquoi on continue à augmenter le prix constamment, pourquoi, et qui va être capable de se payer quelque chose un jour en France? C'est complètement aberrant. Est-ce qu'on essaie de stopper quelque chose? Est-ce qu'on essaie d'empêcher quelque chose de rentrer à l'intérieur de la France, ou est-ce qu'on veut sortir certains individus de la France? Je sais pas. J'essaie de trouver une réponse à cette question.
La réponse est finalement assez simple. Bon, il y a un système. Ce système est fondé sur des prélèvements très importants et sur une redistribution qui a fait qu'en France, actuellement, les seuls revenus qui progressent, ce sont des gens très riches et ceux des plus pauvres qui reçoivent des allocations. La classe moyenne est écrasée littéralement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point a trait au fait que quand vous êtes entré dans un cycle de prélèvement et de redistribution, si vous arrêtez le prélèvement, vous êtes obligé d'arrêter la redistribution, mais il y a des tas de gens qui réclament, donc ça devient très difficile. Et tout ceci est un cercle vicieux qui fait que les dépenses de l'État augmentent sans cesse, et je donne souvent cet exemple parce que je le trouve assez éclairant. Quand vous achetez un sandwich au jambon dans un bistrot, eh bien vous avez deux tranches de pain, une tranche de jambon et 55% de dépenses publiques au milieu.
C'est bon.
Vous voyez, le sandwich est très indigeste.
Ouais.
Mais c'est ça la vérité. Quelques pas que vous fassiez où que ce soit, vous avez 55% de dépenses publiques. Vous allez acheter un cornet de marron au coin de la rue, il y a 55% de dépenses publiques. Vous achetez un appartement, c'est la même chose. Et donc, le coût de la vie est extrêmement cher en France. Mon épouse m'a dit ce matin en rentrant du marché qu'elle avait acheté deux gousses d'ail, je ne sais plus quoi exactement, qu'elle avait payé 3 euros. Mais vous imaginez ce que c'est que 3 euros pour deux gousses d'ail?
Ouais, c'est cher, c'est très cher.
C'est absolument effarant.
Ouais, c'est complètement
et donc
effarant.
Tout ça, c'est lié au fait que les dépenses publiques alourdissent l'ensemble des coûts et vous ne pouvez pas y échapper.
Ouais, si vous saviez que la gousse d'ail, nous ici, on la pèterait que quelques sous à peine.
Ah bah écoutez, alors dans ce cas-là, si vous pouviez m'en envoyer quelques sous,
tout à fait. Ben je vais vous en envoyer une caisse, oui, de la part.
Ah bah,
de...
c'est très gentil, mais attendez, parce que vous savez que l'ail.
Attendez, ils vont vous l'attaquer.
Oui. Donc il va y avoir peut-être des phénomènes repoussants, mais
mais
en tout cas, votre attention est charmante et je vous en remercie vivement.
Ça nous fait plaisir, monsieur Eichmann. Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire pour un homme tel que vous, hein, quand même? j'ai eu des propos très durs tout à l'heure sur les SDF, monsieur Eichmann, et je vous explique un peu mes propos. Je faisais savoir que j'ai vu une photo tout à l'heure au niveau du Figaro et je les voyais dans des tentes d'une
oui,
couleur.
Bon, d'une couleur. Canal Saint-Martin.
Canal Saint-Martin, exactement. Et je disais aux auditeurs que je trouvais que ça faisait parasite, que je trouvais que je trouvais inutile d'aller se placer là comme ça sur le canal Saint-Martin, d'obstruer.
Mais ça c'est une manipulation du groupe qui les a installés là.
Aha.
Mais oui, parce que.
C'était le point.
Pardon?
C'était le point que je voulais amener.
Monsieur Legrand, qui est un comédien, s'est fabriqué le visage de l'abbé Pierre. Donc il a une barbe et une moustache. Et il est issu d'ailleurs d'un milieu de droite. Hein. Ça n'est pas du tout un gauchiste effréné. Et peut-être même, je lui fais volontiers crédit de ses bons sentiments, mais il a installé ses tentes de manière, dit-il, à poser le problème. Bon, de ce point de vue-là, il a réussi, il a posé le problème. Alors, quelle sera la solution? Monsieur de Villepin, le Premier ministre, a dit qu'il allait réquisitionner un fort militaire pour y mettre pour y loger les SDF, c'est possible. En attendant, on a déplacé de 100 mètres leur campement parce que les riverains, c'est-à-dire les commerçants et les autres personnes qui habitent à proximité, se plaignaient évidemment d'un voisinage qui n'était pas très facile pour leurs affaires. Enfin, tout ceci, c'est quand même une agitation parfaitement, je dirais parfaitement manipulée, parfaitement inutile, parce que non pas que qu'il faille ne pas s'occuper des SDF, mais parce que la façon dont le problème est posé ne pose pas le véritable problème.
Le point, mon point de vue aussi était le suivant. Pourquoi attendre toujours après l'État, hein? Ça fait...
Oui.
Vous comprenez?
Mais c'est parce que... Mais cher monsieur Trépanier, c'est parce que l'État s'occupe de tout. Alors, à partir du moment où l'État vous colle 55% de dépenses publiques, vous vous dites, bon, bah, écoutez, sur ces 55%, il y a bien un petit pourcent pour moi, donc... Et voilà, vous comprenez, c'est toujours le même problème.
Je comprends, c'est un cercle vicieux.
Si l'État prend tout en main, à qui voulez-vous vous adresser? Donc il faut laisser aux gens la liberté la plus grande possible de disposer de ce qu'ils gagnent et de ne pas toujours demander à l'État. Mais quand l'État est devenu tel qu'il est le seul à pouvoir intervenir, eh bien, c'est l'État qui récolte tous les problèmes.
Exactement. Nous avons un commentaire pour vous, M. Reichmann, sur le live, @rocket.com. M. Reichmann a bien compris les choses. Moi, je compte voter Philippe de Villiers. Et parce que je trouve plus raisonnable que Le Pen. Il le trouve plus raisonnable que Le Pen.
Oui, c'est un point de vue qui peut se défendre. Mais enfin, bon, vous savez, raisonnable ou pas raisonnable, bon, c'est difficile de juger ainsi en politique. Mais enfin, bon...
Allons-y pour un accommodement.
Pardon?
Allons-y pour un accommodement, M. Reichmann.
Les accommodements raisonnables, c'est ça que vous dites?
Oui, oui.
C'est amusant, d'ailleurs, cette expression, accommodement raisonnable. Elle qualifie, si j'ai bien compris, le fait d'accepter que des populations immigrées conservent un certain nombre de leurs propres traditions et ne respectent pas complètement les traditions ou les lois du pays d'accueil. C'est bien ce que j'ai cru comprendre, mais qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce cas-là? C'est difficile à dire. Moi, je pense que l'affaire de... comment s'appelle le petit village qui...
Hérouville,
voilà, Hérouville. D'ailleurs, vous savez que nous avons en France aussi un Hérouville, en Caux, je crois, c'est dans le Calvados. Et bon, à Hérouville, je crois que les gens ont posé le bon problème. Je ne sais pas si la réponse est la bonne, ça c'est eux qui nous le diront, mais en tout cas, ils ont eu le mérite de poser un problème.
Exactement. Et ils ont eu aussi le mérite de... Oui, allez-y, M. Reichmann.
Est-ce que cette affaire d'Hérouville fait du bruit au Canada?
Mais certainement, c'est incroyable. D'ailleurs, le Conseil islamique du Canada poursuit Hérouville devant, la Commission des droits et la Charte de liberté, bon, peu importe, là, mais...
Oui, ça n'a rien d'étonnant, puisqu'ils ont posé un problème fondamental, qui est celui du respect qu'on doit avoir, ou ne pas avoir, selon certains, des lois du pays. Or, la conception qu'ont la majorité des habitants d'un pays, ça j'en suis absolument convaincu, c'est d'une part une certaine tradition d'accueil, ça me paraît évident, le Canada est un pays d'immigration, donc il y a une tradition d'accueil, mais d'un autre côté, ceux qui arrivent doivent devenir de vrais Canadiens, quoi. C'est la condition en quelque sorte. À partir du moment où ils veulent conserver leurs propres traditions, leurs propres coutumes, dont certaines sont contraires aux lois, en tout cas aux lois habituelles du pays.
Tout à fait.
Alors là, on entre dans la discussion des accommodements raisonnables, et quand on commence à être raisonnable, on finit souvent par être lâche. Et c'est hélas ce qui guette la plupart des pays dans lesquels l'immigration a une très, très une grande importance.
Tout à fait.
Parce qu'il y a une pression très forte qui se fait. Vous savez, quand il y a un problème, il y a toujours des comportements classiques qui se déroulent. Vous avez une grande majorité de gens qui s'en foutent parce qu'ils sont inconscients. Vous avez une autre partie de la population qui considère qu'il faut surtout pas évoquer les problèmes parce qu'on peut se fâcher avec les gens. Et puis vous avez une petite partie, presque toujours la même, inférieure à 10%, qui dit que c'est intolérable et qui essaie de se battre. Quand je dis 10%, j'exagère même peut-être. Et voilà, tout le problème est de faire en sorte que la nation ne doit pas disparaître, c'est que ces 10% finissent par convaincre les 90 autres pourcents qu'il faut quand même se faire respecter en tant que tel, sans agressivité et sans intolérance, mais qu'une nation ne peut pas subsister si elle n'est pas elle-même.
Monsieur Reichmann, je veux vous ramener sur ces fameux SDF concernant le fait qu'ils cherchent tout le temps, ils attendent tout le temps un petit quelque chose de l'État. Moi, je sais pas pourquoi, mais lorsqu'on est entrepreneur ou enfin qu'on a un sens du leadership aiguisé, ma foi, on n'attend pas après le gouvernement, sinon on crève de faim. Vous êtes d'accord avec moi?
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais le problème, c'est que si on est tout à fait objectif, on peut se demander si les personnes qui sont hébergées actuellement sur le canal Saint-Martin, qui sont, beaucoup d'entre eux sont clochardisés, il faut quand même le dire.
Oui.
Mais si à l'origine, si on regarde leur origine, et qui la plupart du temps est celle de personnes venant de pays étrangers, il n'est pas certain qu'ils aient souhaité ne pas travailler, ça on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vient un moment où ils sont là, bon, ils ne savent plus où aller, et donc ils s'en remettent à l'État. Mais le problème est, premièrement, ils n'auraient pas dû pouvoir venir, puisqu'il n'y avait pas de travail pour eux, et deuxièmement, une fois qu'ils sont venus, on n'aurait pas dû les encourager à rester en leur distribuant éventuellement des subventions. C'est toute une politique qui doit être repensée, et un État doit avoir une politique d'immigration, il ne peut pas éviter de l'avoir. Bon, la France n'a aucune politique d'immigration. C'est une, ou plus exactement, la politique du chien crevé au fil de l'eau. C'est-à-dire que on ne fait rien, on subit l'émigration et l'immigration. On prend quelques mesures ici ou là, mais en même temps, on prend des mesures démagogiques. Ben, Monsieur Sarkozy s'est rendu récemment en Algérie. Bon, il a accordé à Monsieur Bouteflika la promesse de plusieurs dizaines de milliers de visas. Qui dit visa dit immigration, parce que ce sont des visas théoriquement de tourisme, mais tout le monde sait bien qu'il n'y a aucun moyen de faire rentrer chez lui un touriste s'il a décidé de rester, et c'est comme ça que l'immigration s'accroît d'une manière qui est totalement hypocrite, parce que officiellement on n'a pas ouvert les portes de l'immigration, on n'a fait que délivrer des visas, mais une fois que le visa se transforme en séjour permanent, eh bien on a plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers même de personnes supplémentaires chaque année.
Monsieur, une petite parenthèse là, on nous explique qu'en Belgique, justement, le président de l'exécutif des musulmans de Belgique est en prison pour détournement de fonds donnés par le gouvernement belge, Inch'Allah.
Ah bon? Bah écoutez, ça, il a peut-être été malhonnête, mais bon, ça, c'est probablement un cas d'espèce, mais enfin, bon, il est certain que vous retrouvez, et il n'y a pas que les musulmans qui sont concernés, vous
mais
retrouvez
non.
toujours, quand il y a beaucoup d'argent distribué par la collectivité, que ce soit l'État ou une collectivité locale ou d'autres, vous retrouvez toujours des détournements. Parce que l'argent public, il est beaucoup plus facile à gagner, si je puis dire, quand on est malhonnête, que de l'argent privé. Parce que l'argent privé, il faut transpirer pour le gagner, alors que l'argent public, il suffit d'être malin et malhonnête pour s'en attribuer une grande partie.
Merde, ça, excusez-moi, là, ça a sorti tout seul, mais c'est tellement vrai, M. Reichmann, il suffit
d'être... une réaction de santé.
Il suffit d'être malhonnête et justement d'être malin pour trouver...
Malin et malhonnête, voilà.
Oui.
Ah ben c'est là. Vous savez, actuellement... Dans un pays comme la France, et je ne sais pas si le Canada obéit également à cette règle, si vous n'êtes ni malin ni malhonnête, vous n'avez aucune chance d'améliorer votre situation. Aucune. Et je ne le dis pas en plaisantant, c'est tout à fait vrai. Bon, vous pouvez à la limite vivre d'une manière décente, mais sans plus. En revanche, quand vous voyez les personnes qui mettent grand train, le plus souvent, ce sont des gens qui vivent sur fonds publics. Et donc, avec votre argent, et par conséquent, la sueur de votre front imbibe leur porte-monnaie.
Exactement.
Et
exactement.
Ça, c'est une situation qui est totalement inacceptable. Et je suis intimement convaincu que les Français le savent très bien. Petit à petit, ça imprègne leur esprit. Et je crois qu'il va y avoir, dans les semaines, les mois, et peut-être les années, mais je crois que ce sera plus rapide que cela, de grandes surprises en France, parce que elles ne seront pas surprenantes pour nous qui les annonçons depuis longtemps, mais les gens qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir continuer leur petit train-train habituel de détournement et d'abus de biens ne se rendent pas compte qu'ils vont avoir à affronter une véritable tempête et que cette tempête n'épargnera pas grand monde.
Monsieur Reichmann, il est déjà 10h35, ce qui veut dire
oui.
16h de votre côté, 16h35, ou j'espère que je ne me trompe pas.
Exactement.
Bon,
16h35 pour nous, et je vais devoir vous quitter.
C'est ça, exactement.
Je vais devoir me rendre. Vous savez que nous faisons un café politique.
Oui, c'est ça.
Et donc, il a lieu dans 35 minutes, il faut le temps d'y aller, mais la semaine prochaine, il n'y aura pas de café politique, donc si vous le voulez bien, on se retrouvera à 17h heure française.
Oui.
Et puis nous continuerons notre sympathique discussion.
Tout à fait. Monsieur Reichmann, de quoi allez-vous parler dans ce fameux café politique?
Ce café politique donc réunit tous ceux qui croient et participent à la Révolution bleue.
Okay.
Et donc nous faisons un petit tour de table d'abord sur l'information générale, c'est-à-dire que nous exposons les faits qui doivent retenir l'attention. Et puis chacun aborde le sujet qu'il veut aborder, et c'est très sympathique et très intéressant parce que c'est un lieu de libre discussion dont il sort en général des idées constructives. Donc c'est une sorte de grand forum, quoi, si vous voulez, et qui se tient dans une brasserie parisienne qui a une salle au premier étage, et nous accueillons toujours énormément de monde, donc c'est un moment auquel nous tenons beaucoup.
Alors, bon café politique, M. Reichmann.
Merci, et vous, bonne fin de soirée, bonne journée même plutôt, parce que vous êtes le matin chez vous.
Tout à fait.
Donc, bonne journée et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, c'était Claude Reichmann que vous venez d'entendre à l'instant, on bat des derrières, et ce, jusqu'à 18h, midi. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez des informations, live@rockig.com, Ismaël Trépanier. Monsieur Reichmann nous parlait, bien sûr, en direct de Paris.
Rockig.com. Rock Radio. Rock and Roll Station.